Chat perché, par Richard Keller, chapitre 2. Dès la deuxième sonnerie du téléphone, un interlocuteur se fit entendre. Gendarmerie, je vous écoute. Loïc, malgré son expérience, se trouvait mal à l'aise au téléphone, et encore plus avec la maréchaussée. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet d'une voisine qui a disparu. Soyez plus précis, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi votre nom, votre adresse et l'identité de la personne disparue. Je suis Loïc Lioran. Je tiens la boulangerie située rue du Vieux Marché, et ma voisine, Madame Mélanie Pralon, ne donne pas de signe de vie depuis jeudi ou vendredi passé. Elle habite au 12 bis rue du Carillon, au 3e étage. Quelqu'un est-il allé frapper à sa porte? Oui, mon épouse arrive de là-bas, et elle n'a eu aucune réponse. Nous venons avec un serrurier et les pompiers, Monsieur Lioran. Merci bien, à tout à l'heure. Voilà Ginette. Ils envoient le plombier, le pompier, et le policier. Rien que ça. Tu te fous de moi, Loïc? Un peu. En réalité, le gendarme m'a dit qu'il venait avec un serrurier et les pompiers. Ça ne me dit rien de bon, cette affaire. Oui, j'ai peur pour Mélanie. Elle a peut-être été victime d'un malaise. Pourtant, elle a un boîtier fourni par la mairie pour rappeler au cas où. Ginette, ne te fais pas du sang inutilement. Nous serons fixés dans un petit moment. En attendant, les chats se sont régalés avec les déchets de chez Nestor. Tu as vu le vieux tout gris? On aurait cru que c'était lui le meneur de la bande. Je crois que c'est le préféré de Mélanie. Elle dit toujours qu'il lui donne la température du quartier. Lorsque tout va bien, il ronronne dans ses jambes. À la première alerte, il se planque et ne réapparaît que si le danger est écarté. Un sage, celui-là. Depuis un gros quart d'heure, les époux Lioran conversaient sur le sort de Nestor et l'absence de la vieille dame. Des clientes bavardes se mêlaient à la conversation. Elles avaient un avis sur tout. Ginette faisait un effort pour ne contrarier personne. Les croissants étaient presque tous vendus. Loïc décida de faire une petite fournée pour les clients qui se levaient tard. Il était 11 heures. Le carillon de la chapelle venait de sonner. Un véhicule de gendarmerie franchit le plot qui séparait la zone piétonne de la zone ouverte à la circulation routière. Une ambulance, avec deux pompiers en uniforme, se rangea derrière leur voiture. Un autre homme descendit de celle-ci. Deux gendarmes poussèrent la porte de la boulangerie. « Bonjour, monsieur Lioran, s'il vous plaît. »« Bonjour, mon mari est au fournil, je l'appelle. »« Loïc, c'est les gendarmes, tu viens ?»« J'arrive, tu sortiras les croissants dans 10 minutes, Ginette. »« Pas de souci, j'y penserai. »« Messieurs, bonjour, je vous emmène chez madame Pralon. »« Sa rue est étroite, il vaudrait mieux laisser un véhicule ici et ne venir qu'avec l'ambulance. » Les gendarmes acquiescèrent. Loïc ouvrait la marche. La marée chaussée et le serrurier en civil suivaient. Mistigris, de son soupirail, regarda passer le groupe. « Pas normal tout ça, se disait-il. » Le boulanger poussa vigoureusement la porte d'entrée en chaîne massive. Les battants, chargés d'histoire, cédèrent à la poussée. Combien d'amours clandestines se sont scellés sous son porche centenaire? Combien de petits trafics à l'ombre des regards? Si elle pouvait parler, elle en aurait à faire des confidences. La minuterie, ancienne elle aussi, faisait un bruit de métronome. Le petit groupe arriva sur le palier du 3e étage. Chacun retenait son souffle pour ne pas émettre un son. Loïc frappa à la porte. Sans réponse, il tapa de nouveau et donna de la voix pour appeler Mélanie. Un gendarme prit le relais. « Madame Pralon, ouvrez-nous, gendarmerie nationale. Nous allons procéder à l'ouverture de votre serrure dans 1 minute. » Il n'y eut pas de réponse. Le seul son perceptible était celui de la minuterie. La lumière s'éteignit et le tic-tac avec. Le boulanger appuya sur le bouton. Le serrurier s'approcha de la fente. Il l'examina et sortit de la poche de son veston un trousseau de clés. Il possédait là de quoi ouvrir toutes les portes de la ville. Il tâtonna quelques minutes. Enfin, il crocheta le loquet et la porte s'ouvrit. Mistigris n'aimait pas les gens en uniforme. Il se souvenait, il y a quelques années de cela, de la descente dans le quartier d'une équipe de pompiers qui captura bon nombre de ses amis. Il ne s'en sortit que grâce à sa parfaite connaissance des coins et recoins du secteur. Il perdit à cette occasion beaucoup de ses camarades. Quelques-uns revinrent, traumatisés par l'expérience. Ils étaient mutilés dans leur fierté de mâle. Le vieux matou prit sous sa coupe les malheureuses eunuques. Il se montrait attentif envers les jeunes de la tribu. Il s'agissait d'informer la jeunesse des risques encourus. Séduit par quelques jolies minettes, certains paradaient sans retenue. Il corrigeait souvent ses imprudents. Les ruelles n'étaient pas toujours sûres. Il fallait souvent ruser avec des chiens belliqueux qui tentaient de prendre possession du pavé. Alors la troupe s'organisait pour bouter l'intrus hors du périmètre. La vie de chat n'était pas de tout repos. Pour survivre dans cette jungle quotidienne, il fallait une bonne acuité visuelle, de bons réflexes, de la diplomatie et un sens aigu de l'anticipation. Mistigri hérita ses dons de sa mère, une vaillante chatte de gouttière qui lui apporta une solide éducation. Il gardait de cette enfance un souvenir ému, lorsque tout petit, avec ses frères et sœurs, il se blottissait contre sa mère en buvant le lait maternel. Elle lui fit connaître tous les lieux stratégiques et l'intégra à la communauté. Aujourd'hui, c'était lui le patriarche qui transmettait le flambeau. Le soupirail d'accès à son logis se trouvait au milieu de son territoire. La ruelle qui passait devant montait au château et se terminait sur la place de la chapelle. Dans l'autre sens, c'était le coin des commerces avec la boucherie de Nestor et la boulangerie des Lioran. Sur la droite, une ruelle mal pavée partait en direction du théâtre. Mistigri aimait bien ce passage qui s'appelait rue des Promises. La légende disait que c'était par là qu'arrivaient les cortèges des futures épouses qui grimpaient vers la chapelle pour convoler en juste noces. Avec le temps, l'histoire s'était enjolivée, il n'en subsistait de nos jours qu'un conte romantique. À quelques mètres à gauche se trouvait la maison de Mélanie, celle qu'il avait lâchement laissée tomber depuis plusieurs jours. Quand il vit les cinq hommes, accompagnant Loïc, entrer dans le couloir de la maison de sa bienfaitrice, le vieux greffier ne se douta pas de la suite des événements. Il préféra quitter son repère et longer les murs en direction du square où se trouvait l'école maternelle. Il grimpa dans un gros marronnier d'où il avait une vue plongeante alentour, car il adorait dominer la situation. Il savait qu'avec les années, bientôt il ne pourrait plus jouer les équilibristes. Aussi savourait-il ses moments de solitude sur les branches centenaires. Mistigri voyait les enfants s'amuser dans la cour, où il y avait des petites cabanes en bois, un bac à sable et même un petit toboggan. Des bambins regardaient parfois dans sa direction. Ils lui faisaient des signes et ça lui réchauffait le cœur. Parmi eux, les gentils et les méchants se comptaient en nombre égal. À la fin de l'été, pendant la saison des marrons, il évitait de se balader vers le parc, car des garnements jetaient les projectiles sur les animaux qui passaient. Une fois, il en avait reçu un dans l'œil qui lui avait laissé une vilaine blessure à la paupière. Au millimètre près, il aurait été borné. Aujourd'hui, il avait été prudent pour grimper dans son observatoire. Il n'y avait pas de neige sur le tronc, mais beaucoup sur la ramure. Il s'était blotti sur une fourche protégée par une grosse branche. Dans la cour, les élèves, équipés de blousons et d'anoraks multicolores, fabriquaient un bonhomme de neige. Ils en profitaient pour se lancer des boules dans un joyeux tintamarre. Les maîtresses restaient attentives, car la neige dure est toujours dangereuse. Les boules sont une arme redoutable lorsqu'elles sont bien tassées. Par temps chaud, notre vieux guerrier aimait à se promener au milieu de la verdure, car il y faisait frais. Les chats n'étaient pas souvent les bienvenus en cet endroit fréquenté par toutes sortes de personnages. Les plus gentils, les amoureux, minaudaient sur les bancs à l'abri du public. L'amour ne se donnait pas en spectacle, il se vivait. Il y avait des vieilles dames, un peu comme Mélanie, mais elles choisissaient pour confident les pigeons. Elles apportaient des croûtes de pain et des graines, rien à mettre sous la dent d'un gros minet. Le danger le plus fréquent ici, c'était les clochards. Enfin pas eux, mais leurs chiens, des vagabonds qui dormaient à même le sol, sous les frondaisons, avec une meute à leur basque. Mistigri évitait ces gueux, il ne leur trouvait ni classe, ni éducation. Ils n'avaient pas peur des mendiants et de leurs esclaves chiens. Mais il préférait les ignorer et faire un détour. Il se disait que le choix des dérivations faisait gagner du temps et du souffle. Seul Dudule, le clochard unijambiste, trouvait grâce à ses yeux. Il l'estimait moins poivreau que les autres, lui. Il n'avait pas de chien. Il donnait même des croquettes quand il possédait 3 sous. Il adorait être entouré de ses copains les chats. Il se posait par terre et allongeait sa jambe de bois. En distribuant ses friandises, il racontait des histoires. Mistigri écoutait religieusement ses souvenirs, du temps où il sautait sur ses deux membres, lui répondait en miaulant affectueusement. Entre bêtes, il se comprenait. Dès les premiers froids, Dudule prenait ses quartiers d'hiver. Il se repliait dans la zone industrielle, vers les hypermarchés. Une odeur nauséabonde surprit les intervenants qui se bouchèrent les narines. Loïc marmonna que c'étaient les effluves de la mort. Dans le vestibule, quelques paires de patins étaient disposées, mais personne ne prit soin de s'en servir. Le parquet ciré brillait et un parfum d'encaustique parvenait à se faire sentir parmi les autres émanations. Ils comprirent dès l'ouverture de la porte ce qui les attendait. Ce n'était pas la première fois qu'ils officiaient chez une personne âgée seule. De nos jours, la société s'étant individualisée, le noyau familial se révèle quasi inexistant. Les anciens finissent bien souvent leur parcours dans une solitude extrême. Au bout du couloir se trouvait la réponse à leurs interrogations. Les gendarmes firent rapidement leurs recommandations. Ne rien toucher et ne rien déplacer. Une porte vitrée avec des rideaux en broderie permettait d'accéder à la salle à manger. Lui était juste poussé et l'un des hommes fut pris de nausée en pénétrant dans la pièce. Les autres eurent des hauts le cœur. La température élevée dans l'appartement ne facilitait pas les choses. Comme beaucoup de vieilles personnes, Mélanie ne se trouvait bien qu'autour de 25 degrés. Loïc aperçut Madame Pralon le premier. Elle semblait dormir, recroquevillée au fond d'un rocking chair. Il ne tenta pas de l'appeler. Il savait qu'elle ne lui répondrait pas. La vieille dame dormait de son dernier sommeil et tout dans la disposition des lieux paraissait bizarre. Les pompiers s'approchèrent de la malheureuse. Ils avaient anticipé et se retrouvèrent les seuls à s'être protégés de l'odeur qui régnait dans l'atmosphère confinée de la pièce. Un des jeunes sapeurs se retourna en direction des gendarmes et bouscula légèrement un globe terrestre posé sur un guéridon. « Vous avez vu? Elle a deux chats sur les genoux. » Le gendarme Chopard lui répondit « Oui, mais ils ne risquent pas de nous griffer. Ils sont morts aussi. » Loïc ajouta « Mort et empaillé. » Le teint cireux de la défunte laissait supposer qu'elle était décédée depuis plusieurs jours. Les cinq hommes se sentaient mal à l'aise. Hardy prit son téléphone portable et appela la brigade. « Allô, ici Hardy, passez-moi le bureau des enquêtes. »« Gendarme Gilles, j'écoute. »« Salut Gilles, c'est Hardy. Nous avons du boulot pour vous. Nous sommes au 12 bis rue du Carillon, au 3e étage. Une dame âgée avec une mise en scène digne d'Alfred Hitchcock. Ne bougez pas, nous arrivons, à tout de suite. Nos collègues enquêteurs sont en route. Ils vont prendre le relais. » Chopard s'adressa aux pompiers. « Désolé les gars. » Je crois que vous allez devoir attendre le feu vert des enquêteurs avant d'évacuer Madame Pralon. » Loïc n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu ce décor lors de ses précédentes visites chez Mélanie. Les deux chats empaillés, positionnés sur les genoux de la défunte, regardaient dans une autre direction. Il se demandait ce que cette mise en scène signifiait. Il essaya d'apprécier l'angle de vue des greffiers. Il n'y avait qu'un guéridon avec une mappemonde posée dessus, et dans le prolongement, une fenêtre avec des rideaux brodés. Lorsque les volets étaient ouverts, la vue donnait sur la chapelle du château. Actuellement, toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur étaient closes. Méticuleuse, la vieille dame ne laissait rien dépasser d'un poil dans l'ordonnancement de son logis. La dentelle semblait avoir sa préférence en plus des rideaux, des napperons sur les guéridons, les tables basses et sur la grande table de la salle à manger, le chemin de table. Une évidence s'imposait, la dentelle dominait le décor. Une lumière diaphane éclairait la pièce. Le groupe s'était maintenant un peu habitué à l'odeur. Ils regardaient tout autour d'eux. Il régnait dans cet appartement une drôle d'atmosphère. Le plus retourné était le boulanger. Il avait côtoyé pendant de nombreuses années Mélanie et il aurait payé cher pour ne pas se trouver devant son rocking chair aujourd'hui. Tout était d'une propreté remarquable dans l'appartement. Les meubles cirés et la poussière quasi inexistante. Mélanie devait avoir certainement une femme de ménage, car à son âge, elle n'aurait pu entretenir avec autant d'opiniâtreté. Hardy demanda à tout le monde de sortir sur le seuil. « Nous attendrons ici, ce sera plus facile pour nous. » Le serrurier avait envie de quitter les lieux au plus vite. Il se hasarda à demander si ces messieurs avaient encore besoin de lui. Chopard le remercia et lui signifia qu'il pouvait disposer. Les hommes discutaient sur le palier. Loïc n'avait pas le cœur à la causette. Habitués à des situations macabres, ils essayaient de parler d'autre chose. L'horloge de la chapelle sonna la demi. Chopard regarda sa montre. Il était 11h30. Ses collègues n'allaient plus tarder. Sur son marronnier, Mistigris entendit d'abord le son des cloches du carillon. Ensuite, dans la cour de l'école maternelle, une sonnerie se mit à retentir. Devant le portail vert pomme, les mamans attendaient leur progéniture. Le chat voulait descendre de son perchoir mais la prudence lui conseillait d'attendre la sortie des classes et le départ des enfants avec leurs parents. Les bambins sortirent, quelques-uns s'amusaient avec le bonhomme de neige dans la cour. Il s'agissait de ceux qui mangeaient à la cantine. Chopard s'adressa à ses compagnons. « Avez-vous vu les meubles ? Ce n'est pas du toc. » Hardy lui répondit qu'il était impressionné par la qualité du mobilier et que c'était certainement d'époque. « Oui, et parfaitement entretenu. Cette vieille dame possédait un goût certain pour le mobilier ancien, » ajouta l'un des pompiers. « Ce qui est remarquable, c'est la table Louis XV avec les chaises, » reprit Chopard. Pour tuer le temps, il passa en revue le mobilier du salon. Outre la table et les six chaises, un vaisselier avec des assiettes en porcelaine, représentant des scènes de la vie quotidienne au XVIIIe siècle, attira leur curiosité. Il y avait aussi deux tables basses et des guéridons. En face se trouvait une bibliothèque avec de nombreux ouvrages. Loïc leur dit que ce n'était pas surprenant, car Mélanie, professeur retraité, possédait une grande culture. Lui, chamboulé par ce qu'il venait de voir, ne s'était pas trop attardé sur les détails, hormis les deux chats posés sur les genoux de Madame Pralon. Mistigris, descendu de son arbre, longeait les murs en direction de son soupirail. Il espérait rencontrer sa bienfaitrice. Chemin faisant, il fit une étrange rencontre. Arrivé à hauteur du 12 bis rue du Carillon, il croisa deux hommes en uniforme avec chacun une valise à la main, qui ne prêtèrent aucune attention à ce vieux raminagrobis. Il accéléra l'allure pour se faufiler au plus vite à l'abri. Il trouva que ce matin, Mélanie recevait beaucoup de visiteurs, et surtout des inconnus. Il se demanda si son ami n'était pas malade, d'autant que le docteur Sahuc fit son apparition à l'autre extrémité de la rue. De mémoire de chat, jamais autant de monde ne circula à la fois dans la montée d'escalier de l'immeuble de Mélanie. « Ce n'est pas normal tout ça, » se disait-il. Et il se décida à aller voir d'un peu plus près la situation. Il traversa la rue, longea la façade de la maison pendant quelques mètres et s'engouffra dans une ouverture au rez-de-chaussée. Le matou connaissait un chemin donnant accès au couloir sans être vu. Il voulait satisfaire sa curiosité sans pour autant éveiller celle de tout ce monde réuni chez son ami.